Alors, la bibliothèque in situ se poursuit avec un petit temps de rencontre maintenant avec Gilles Rethel. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci de prendre ce temps un peu à peu de temps après la fin des deux jours de formation qui viennent d'être animés et donnés par vous lors de ce stage, donc les musiques électroniques pour le réseau du territoire de Belfort. Alors, peut-être d'abord profiter de ce petit temps d'entretien pour vous présenter à la fois vos activités actuelles et puis évidemment, je pense que vous pourrez nous dire un petit mot sur les activités plus anciennes liées à la musique professionnelle. Voilà, une petite présentation, quelques mots pour que les auditeurs du blog vous découvrent.
Quelques mots, petite présentation, ça va être dur ça. Je vais essayer de faire vite quand même. Ma première vie, c'était professeur de sciences physiques. Il y a très 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 longtemps maintenant. Ma deuxième, ça a été musicien professionnel dans deux groupes rennais qui ont eu un peu leur heure de gloire à l'époque, qui étaient Marquis de Sade et Marc Seberg, jusqu'en 91. Et puis, au milieu des années 90, j'ai créé une structure qui s'appelle MSAI, où j'ai deux activités, une de création de sites web, et puis l'autre qui nous intéresse ici plutôt aujourd'hui, sur de la formation en général, voilà, autour de la musique, avec une problématique générale qui est une réflexion autour de l'articulation qu'il y a entre l'innovation technologique et ce que ça implique dans la musique au niveau des usages ou de la créativité. Voilà, c'est un peu là-dessus que je réfléchis.
Très bien. Alors, les quelques questions que j'avais préparées pour l'entretien sont à la fois prises via des rebonds suite à la formation que l'on vient de partager ensemble avec les autres collègues du département. Et puis il y a d'autres choses peut-être un peu plus surprenantes. Mais la question là que j'avais envie de soumettre maintenant, hier vous avez dit qu'avoir découvert Donny Hathaway lors de la fameuse émission de José Arthur, le Pop Club, en 71, c'était l'album de la semaine. Oui. Alors, peut-être évoquer cette émission de manière générale, et puis surtout, donc, à cette époque-là, quels étaient vos moyens de vous informer, justement, pour, voilà. Puisque 71, il n'y avait pas Internet.
On avait très peu de magazines. Moi, j'achetais de façon régulière Rock & Folk, qui n'a strictement rien à voir avec le Rock & Folk d'aujourd'hui. Il y avait Best à l'époque, il y avait une autre revue qui s'appelait Extra, et si vous allez aujourd'hui dans une maison de la presse, vous regardez ce qu'il y a comme magazine autour de la musique, il y en a quand même beaucoup. À l'époque, c'est tout ce qu'il y avait, mais vraiment tout. Et Extra n'a pas duré très longtemps. Et c'est vrai qu'il y avait aussi très très peu. Le rock, de toute façon, n'était pas une musique reconnue en France. C'était tout à fait underground, tout à fait alternatif. Il y avait de très très rares émissions. D'abord, il n'y avait pas de FM. Enfin, il y avait de la FM, mais les gens écoutaient essentiellement la radio à l'époque encore sur les grandes ondes. Donc, on avait France Inter, Europe 1, RTL, et c'est tout. Et donc, sur Europe 1, il y avait une émission avec Lancelot. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelait, mais où il parlait pas mal de rock. Il y avait une émission sur RTL qui était animé par Jean-Bernard Hébé, je crois qu'elle s'appelait Poste Restante, et l'émission de Michel Lancelot, c'était Campus sur Europe 1. Alors, évidemment, ça ramène des souvenirs là. Et puis il y avait cette émission, le Pop Club de José Arthur, qui effectivement mettait en avant un disque pop de la semaine et qui le passait, alors je ne sais plus s'il passait à chaque heure parce que c'était une émission assez longue, mais en tout cas il le passait en intégralité, le morceau en début et en fin, ça c'est sûr, et parfois on avait des morceaux qui faisaient plus de 10 minutes, donc c'est des choses qu'on aurait du mal à concevoir aujourd'hui. Et il faut reconnaître qu'à cette époque là j'y repensais encore hier soir, c'est absolument incroyable le nombre de disques importants que j'ai découverts par cette émission là hier j'ai parlé par exemple du premier album de Kim Crimson, qui n'est pas sorti en France pendant 2 ans, alors qu'il était déjà sorti en Angleterre évidemment, et disque pop de la semaine. Mais je pense aussi des choses plus moins connues aujourd'hui, comme les Chamber Brothers par exemple, Time Has Come Today, c'est un disque qui m'a beaucoup marqué, ça, ou le premier disque que j'ai acheté, Bloodsuth and Tears, le deuxième album de Bloodsuth and Tears, Smiling Faces. Enfin, c'est absolument incroyable, quoi. C'est des gens qui choisissaient, puisque c'était pas José Arthur, c'est des gens
chroniqueurs,
et qui sont bien connus en plus. après Blanc-Francard, etc. Franchement, de mémoire, il n'y a jamais eu une faute de goût, quoi. Vraiment incroyable, les choix qu'il faisait, qui étaient absolument dans l'air du temps et qui étaient vraiment les albums importants. Ouais.
Et puis en plus, je crois que c'est une émission qui a eu une longue durée, puisqu'elle a, continué à être présente jusqu'au début des années 2000, hein, ou peut-être pas tout à fait, mais en tout cas...
Mais pas tout à fait sous la même forme. Voilà. Hein, et puis cette idée de disque pop qui existait encore, c'était plus les mêmes chroniqueurs, et puis bon, enfin, le contexte général n'était plus le même. Moi, ça a fait franchement une partie de mon éducation, on peut dire, de 67 jusqu'à, je crois, 73, 74, quoi. Mmh. Voilà.